Il dit pas peut-être qu'il pourvoira, peut-être qu'il verra votre besoin, peut-être qu'il prendra soin. Non, c'est une certitude. Il dit mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il ne laisse pas l'Église dans l'incertitude, mais il affirme un fait, une vérité, quelque chose qu'il a lui-même expérimenté avec le Seigneur. Dieu est celui qui pourvoit, n'est-ce pas? Jéhovah Jireh, ça veut dire quoi? L'Éternel pourvoira. Et vous vous rappelez de cette histoire avec Abraham, dans Genèse chapitre 22, versets 11 et 14, lorsque Dieu lui dit d'offrir son fils, son unique en sacrifice, et Abraham part, d'accord? Et puis, il va pour offrir son fils, et au moment où il s'apprête à le sacrifier, eh bien, la Bible dit qu'un ange lui apparaît, et puis lui montre, qu'il lui dit de ne pas le faire. Je vais vous lire le verset, il dit, l'ange lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans les buissons par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, il l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et Dieu est celui qui pourvoit. D'accord. Et cette histoire d'Abraham, nous, on le voit bien en filigrane, contient l'image de la réalité. Savoir que Jésus-Christ est l'agneau que Dieu a pourvu, n'est-ce pas ? Pour nos péchés. C'est lui qui est le véritable agneau que Dieu a pourvu. Donc Paul parle ici à cette église d'expérience. C'est son Dieu, mon Dieu. C'est le Dieu dont il a fait l'expérience. Il dit qui prendra certainement soin de vous et qui pourvoira à tous vos besoins. Il dit par exemple ailleurs, hein, dans 2 Timothée 3, 11, il dit « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre ? Quelle persécution n'ai-je pas supporté ? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Il s'est retrouvé dans beaucoup de besoins particuliers, différents, financiers, mais aussi pour sa santé, pour sa sécurité, pour toutes ces choses. Et il dit, Dieu m'en a délivré de tout. Dieu a pourvu. Et donc il dit à ces Philippiens, vous êtes peut-être dans la pauvreté à cause de votre investissement dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, mon Dieu, sachez-le, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Notons troisièmement le champ d'application de la providence, de la provision de Dieu. Il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins ». Il ne dit pas « Mon Dieu pourvoira à quelques-uns de vos besoins » ou « qu'il pourvoira à vos plus grands besoins » ou « qu'il pourvoira à l'essentiel de vos besoins » ou « qu'il vous donnera simplement le vêtement et la nourriture ». Il dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins » dans quelque domaine que ce soit. Eh bien, il dit que Dieu pourvoira. Telle est l'étendue donc de la provision de Dieu que Paul annonce aux Philippiens, à cette église qui a donné si généreusement. Les Philippiens ont donné pour répondre en partie aux besoins de Paul, son loyer, peut-être à Rome, quelques vêtements, je ne sais pas, la nourriture, mais ils n'ont pas répondu à tous les besoins de Paul. D'accord ? Paul a eu plus de besoins que de besoins financiers. Ses besoins ont dépassé simplement le cadre des besoins financiers. Il était en prison. Il attendait un jugement. Et lui-même, il écrira plus tard, hein, si on regarde dans 2 Timothée chapitre 4, si vous n'avez pas le temps de trouver, mais je vais lire, ne cherchez pas, écoutez simplement. Il dit à Timothée, il écrit, il dit, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. J'ai envoyé Tychique à Éphèse. Il dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, et surtout les parchemins. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il est fortement opposé à nos paroles. Et puis il dit, verset 16, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté. » Personne. Il dit, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit pas imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. Il n'a pas eu que des besoins matériels. Il a eu parfois le besoin de soutien, même personnel, de personnes à côté de lui, de personnes qui l'assistent dans son procès. Il a dit « Personne, tous m'ont abandonné. » Mais il ajoute « Le Seigneur m'a délivré de la gueule du lion. Et il me délivrera et il me sauvera. Il pourvoira toujours à tous mes besoins. » Les Philippiens étaient capables de pourvoir par Dieu à quelques besoins financiers, mais les besoins de Paul étaient bien au-dessus de cela. Et il pouvait leur dire le trou qu'a causé votre soutien, votre don, n'ayez crainte. Dieu le comblera parce que mon Dieu, pourvoira à tous vos besoins. Dieu, j'ai entendu dernièrement, j'étais dans le train, une discussion entre des personnes. Et puis, bon, pas dans le train, c'était en train de manger. Ces personnes, il y avait une de ces personnes qui parlait de dons qu'elle avait reçus, d'héritage de la part de son père, je crois. Et puis, la discussion roule avec deux, trois personnes. Et puis, elle dit, maintenant, je suis en sécurité. D'accord ? Et souvent, on se sent en sécurité lorsque l'on a constitué un petit matelas financier, n'est-ce pas ? Et la recherche de la sécurité peut nous faire craindre de donner, parce qu'on a peur d'être dans le besoin. Okay. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. » On anticipe des jours souvent difficiles, la baisse des revenus, peut-être la baisse des pensions de retraite. Hein, avec les réformes, etc. Et on se dit, on peut peut-être tenter de se dire, mais il faut quand même faire attention parce que on va vers des jours mauvais. Peut-être qu'il faut retenir ce qu'on pourrait donner dans l'œuvre du Seigneur. L'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Dieu honore celui qui donne. Vous vous rappelez l'exemple de cette femme, de cette veuve de Sarepta, que Élie vient voir. Et Dieu lui dit, va chez cette veuve et je lui ai ordonné de te nourrir. Mais c'est une pauvre, une veuve, elle n'a rien. Et quand Élie arrive dans 1 Roi 17, verset 8, alors regardez cela un petit peu. 1 Roi 17, verset 8, il dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, il dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Élie, il se lève, il va là-bas, il rencontre la femme, il lui dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et la femme va chercher de l'eau. Il appelle la femme après et puis lui dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et là, elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Et je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse deux morceaux de bois. Je rentrerai. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils, et nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit, mais prépare-moi d'abord. C'est important ici, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie, ils étaient en pleine famine, hein, sécheresse, fera tomber la pluie sur la face du sol. On pourrait dire, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé Élie vers quelqu'un qui avait des moyens? Pourquoi aller triturer cette femme veuve, arrivée au bout de son existence? Elle-même, elle le dit, on mange, c'est le dernier repas, et après on meurt. Élie lui dit, ok, vas-y, mais tu fais d'abord pour moi, et puis tu vas voir. Dieu va pourvoir. Et c'est ça la leçon qu'il a. Dieu nous montre, on a cette histoire pour nous montrer que Dieu honore toujours ce qui lui donne la première place. Et cela est valable aussi dans le domaine financier. Il n'y a pas d'état, de situation dans lequel on ne puisse donner à Dieu. Cette femme n'avait rien. Elle a dû quand même donner aux serviteurs de Dieu en premier. Et Dieu a pourvu à ses besoins. La farine n'a pas manqué dans le pot, ni l'huile dans la cruche, jusqu'à ce que la situation économique redevienne florissante, on pourrait dire. C'est important pour nous de considérer cela. Ailleurs, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, encore pareil, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours et en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Il dit qu'il y a des choses que l'on peut découvrir avec Dieu si on en accepte de mettre Dieu d'abord et d'investir dans l'œuvre de Dieu. Quel que soit ce que l'on a. Ce n'est pas Dieu après les dettes, c'est Dieu avant les dettes. Ce n'est pas Dieu après le loyer, c'est Dieu avant le loyer. C'est important pour nous de considérer ça. Parce que Dieu pourvoira, dit-il. Dieu ne laissera jamais ses enfants dans la détresse. Il pourvoira. Donc il est important pour nous de considérer cela ce matin. Il n'y a absolument aucun domaine de la vie dans lequel Dieu ne puisse intervenir. Dans le temps, dans l'argent, dans le travail, il n'y a absolument aucun domaine dans lequel il ne puisse venir pour pourvoir pour ses enfants. Quatrième chose, on peut voir aussi la mesure de la provision. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Telle est la mesure de la provision de Dieu. Elle est infinie selon la richesse de Dieu. Avez-vous déjà pu évaluer la richesse de Dieu? Le monde est à lui, c'est lui qui l'a fait. Les gens extraient le pétrole, l'or, les pierres précieuses dans la terre et toutes ces choses. Qui c'est qui les a faites? C'est Dieu. Toutes ces choses lui appartiennent. Tout lui appartient. Il est immensément riche. Et ici, le passage dit qu'il pourvoira à tous vos besoins. Non seulement qu'il le fera certainement, non seulement qu'il le fera de manière étendue dans tous les aspects, dans tous les besoins que l'on peut avoir, mais il le fera selon sa richesse. C'est-à-dire, pas simplement qu'il prendra de sa richesse pour combler, mais qu'il agira conformément à sa richesse, selon sa richesse, d'une manière digne de sa richesse. Vous comprenez? C'est-à-dire, pas avec parcimonie. Il va vous combler d'une manière digne de sa richesse. Sa richesse est inépuisable. Elle surpasse de loin tous nos besoins. Une seconde veuve, hein, dans l'histoire des rois, c'était celle qui a rencontré le prophète Élisée. Vous vous rappelez du prophète Élisée qui est venu, il a rencontré une veuve, et puis qui avait très peu d'huile aussi, pareil, et puis qui vient le voir, et puis qui lui dit, voilà, son mari est décédé, mais les créanciers viennent chez elle maintenant, donc lui réclamer, et elle n'a pas de quoi réclamer. Et Élie Élisée lui dit d'aller chez les voisines, de ramasser des cruches, d'accord, grandes cruches, elle avait une petite fiole comme ça d'huile, de ramasser des grandes cruches, d'emmener autant qu'elle pouvait, et puis de les remplir d'huile à partir de la fiole, le petit flacon. Et elle a commencé à remplir. Et puis elle remplissait. À un moment donné, elle dit à son fils, passe-moi l'autre cruche. Et il lui dit, il n'y a plus de cruche. La Bible dit, et l'huile s'arrêta. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'huile s'est arrêtée quand il n'y avait plus de cruche. Tant qu'il y avait des cruches, tant qu'il y avait des besoins, l'huile a coulé. D'accord ? Et quand l'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, c'est-à-dire qu'il a une richesse infinie. Tant qu'il y aura des besoins, il y aura réponse et provision de la part de Dieu. Ça n'est pas l'huile qui a manqué, c'est les cruches qui ont manqué. C'est le besoin qui se sont taris. Et donc, l'huile a tari. Et pas l'inverse. Et c'est pareil pour le domaine, dans le domaine matériel pour nous avec Dieu aussi. Et cinquièmement, je voudrais souligner aussi le canal de cette providence, de cette provision de Dieu. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Aucun accès à quoi que ce soit qui vienne de Dieu en dehors de Jésus-Christ n'est possible. On ne peut pas arriver à Dieu ni recevoir quoi que ce soit de lui qui ne soit donné en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la provision même de Dieu pour les hommes. 2 Corinthiens 8, 9 dit, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Ce verset, je le redis encore, se situe en plein milieu d'un passage qui traite du don financier. L'apôtre Paul donne l'exemple de Jésus-Christ qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Donc c'est par Christ seulement que l'on peut recevoir toute chose. L'incarnation, l'œuvre de Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection sont le moyen par lequel Dieu pourvoit au besoin le plus fondamental de l'homme pécheur, c'est-à-dire son besoin de salut. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. L'apôtre Paul dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il dit pas, vous avez tout pleinement. Il dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Il n'y a rien en dehors de lui. Tout est en lui. Et c'est par lui que vous pouvez être comblé. Jésus-Christ est l'unique canal par lequel la bénédiction de Dieu parvient jusqu'aux hommes. Il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Si vous ne connaissez pas Christ, la première chose à faire n'est pas de donner à Christ, mais c'est de recevoir de lui. Recevoir le don que Dieu nous fait de Jésus-Christ. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est vraiment le don initial que Dieu nous fait. Et c'est la première chose, la chose la plus importante qui soit ici. Avez-vous mis votre confiance en Jésus-Christ? Est-ce que vous le connaissez comme votre Seigneur et votre Sauveur? Et je termine ici avec quelques points d'application ici. Comment donnons-nous à Dieu? Comment donnons-nous à Dieu? Comment donnez-vous en tant que croyant à l'œuvre de Dieu? Donnez-vous avec contrainte ou avec joie? Avez-vous résolu méthodiquement dans votre cœur ce que vous allez donner? Ou est-ce que, c'est comme ça vient, c'est au feeling, hein? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est, comme la parole nous le commande, est méthodique et réfléchi? Êtes-vous fidèle dans vos offrandes ou est-ce que vous les apportez seulement de temps en temps quand vous y pensez? Où donnez-vous? Votre église locale a-t-elle la priorité ou est-ce que on est dispersé un peu partout? Bien sûr, il y a des besoins partout et il faut être sensible à ce que Dieu nous montre. Comment donnez-vous ? Êtes-vous généreux ? Ou pensez-vous d'abord à tout ce qu'il y a à faire et puis vous dites, s'il reste quelque chose, on donnera à Dieu. Dieu est-il le premier servi ou le dernier servi ? C'est important pour nous de répondre à ces questions. Comment donnons-nous ? Posons-nous la question et puis mettons-nous devant le Seigneur pour régler cela. Deuxième chose, le croyant n'a pas à craindre l'avenir, chers frères et sœurs. Depuis plusieurs mois, la grande crainte de notre pays, c'est l'avenir financier, n'est-ce pas ? Notre retraite. Comment on va être traité dans quelques années ? Et quelle sera notre pension ? La Bible ne nous demande pas d'être insouciant. D'accord ? Il ne s'agit pas d'être insouciant, de ne pas penser à l'avenir, pas du tout. Mais elle nous dit de ne pas promener des regards inquiets. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Si Dieu est notre Dieu, il dit, c'est une aberration que de promener des regards inquiets. C'est une aberration que de promener des regards inquiets. Nos cœurs et nos mains ne doivent pas se resserrer par crainte de manquer. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, a dit le prophète à cette femme qui a donné, d'accord, qui était sur le point de donner même de son nécessaire. Jésus dit dans l'évangile de Luc, « Donnez et il vous sera donné. On vous mesurera, on mesurera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, on va bien tasser tout ça. » Et même qui déborde, il dit, « Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Si vous donnez peu, si nous donnons peu, nous connaîtrons peu la provision de Dieu. Et puis, troisièmement, Dieu est souverain sur toutes choses, y compris sur notre argent. Ouais. Écoutez ce que Dieu dit par le prophète Agée, qui, vous savez, ce peuple qui venait de la captivité de Babylone et puis qui devait construire la maison de Dieu, ou construire le temple. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils étaient mis à construire leur propre maison. Chacun était affairé. Alors, je pense que de nos jours, on voit encore ça, hein ? Beaucoup de croyants, de chrétiens qui sont affairés avec la construction de leur maison. Je ne dis pas qu'il ne faut pas construire une maison, mais des fois, ça prend une place et des moyens tellement importants que tout le reste devient secondaire. Et c'est exactement la situation avec ce peuple. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Il dit, et j'en aurai de la joie, je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Alors, il leur explique pourquoi ils sont dans la crise économique. Il dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, vous l'avez mis dans la banque, sur le compte épargne, et tout ça, comme vous voulez. Il dit, mais j'ai soufflé dessus. Hein, imaginez, vous entassez plein de billets, et puis Dieu vient, et puis tout part. Wow. Il est capable de faire ça. Il est capable de faire ça. Et il dit, et Dieu pose la question, pourquoi, à votre avis, j'ai fait ça ? Et il ajoute, à cause de ma maison qui est détruite, disent que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes, sur les bêtes et tout le travail des mains. Voilà. J'ai fait tout ça. Pourquoi ? Parce que vous avez investi votre temps, votre argent, pour votre propre confort. Et vous avez négligé la maison de Dieu. Vous avez négligé l'œuvre de Dieu. Et donc, j'ai soufflé sur tout ça. C'est terrible d'entendre ça. L'apôtre Paul dit à Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Alors bien sûr, pour nous, les riches, c'est toujours les autres. Hein. On dit qui c'est qui est riche, on montre. On a toujours quelqu'un d'autre à montrer. Mais si on demande à la planète, à 99% des personnes qui habitent sur la planète, qui sont les riches, leur doigt se pointera vers nous. Parce que nous sommes, faisons partie des 1% des plus riches de la planète. Et ce verset s'adresse à nous. Quand il dit les riches du présent siècle, c'est aussi nous, chers frères et sœurs, d'une certaine manière. Ah, bien sûr, on ne va pas se comparer aux milliardaires et tout ça, mais quand même, regardons ce que nous avons, les moyens que nous avons par rapport au reste du monde. Nous avons beaucoup. L'apôtre Paul dit, recommande de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses. Il dit incertaines, mais de les mettre en Dieu qui nous donne avec abondance. C'est Dieu qui donne, même la richesse, c'est lui qui la donne, avec abondance pour que nous en jouissions. Et donc je dis que la sécurité n'est pas dans ce que je parviens à entasser, mais en Dieu qui fournit. L'apôtre Paul lui dit la semence, en Dieu qui fournit les choses, qui a tout pouvoir sur toutes choses, qui pourvoit aux besoins de ses enfants, et de ses enfants qui donnent généreusement. Donc il est important pour nous, chers frères et sœurs, Dieu est souverain sur toutes ces choses, et toutes ces choses lui appartiennent. Et donc nos sécurités ne dépendent pas de ce que nous avons matériellement, mais elles dépendent de Dieu. Le peuple d'Israël, au retour de la captivité, en a fait la meilleure expérience. Ils ont tassé des choses, et Dieu... Il a soufflé dessus. Et il n'y avait plus rien. Et il dit, c'est parce que vous n'avez pas mis votre confiance en moi, vous l'avez mis dans vos biens. Et vous avez utilisé vos biens, non pour l'œuvre de Dieu, mais pour votre propre confort. Et puis, dernier point, le principal besoin de tout homme, c'est son besoin de Dieu. En fait, Dieu n'a pas de besoin, vous savez ça. Quand on donne dans l'œuvre de Dieu, on donne à Dieu, mais Dieu n'a pas de besoin. Dieu est suffisant en lui-même. Alors, il dit ceci, je vous lis rapidement dans le psaume 50, il dit ceci, Dieu, il dit, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Il dit, tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta main, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'ai faim, je te le dirai pas. Car le monde est à moi, et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Dieu dit, mais si j'avais faim, je ne veux pas t'informer que j'ai faim. D'accord? Parce que tout ça, c'est à moi. Et donc, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nos dons. C'est nous qui avons besoin de lui. Et même quand nous donnons, David dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Même pour donner à Dieu, il faut qu'il nous donne. D'accord? Et donc, nous avons besoin de lui même pour donner. Et quand il nous donne, nous devons considérer tout à fait ce qu'il nous donne, afin de le réinvestir sagement, généreusement, dans son œuvre. Et Dieu fournit toujours à ses enfants, afin qu'ils puissent être, dit-il, dans l'abondance pour pouvoir donner et subvenir aussi aux besoins qu'il met devant eux. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Donnez à Dieu, et Dieu pourvoira. Et mon Dieu, dit Paul, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Mettons-le à l'épreuve. Mettons-le à l'épreuve. Et nous verrons s'accomplir dans notre vie la réalité de ses promesses. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore pour ta parole qui est la vérité. Je crois que nous nous sentons tous concernés par ce que nous avons lu et entendu de toi, et tu connais nos cœurs, et surtout dans cette partie du monde où nous sommes très matérialistes, je te prie que tu détaches nos cœurs des biens pour les attacher à toi, que tu nous donnes la sagesse, que tu nous donnes de l'intelligence afin de comprendre que tout appartient, que tout vient de toi. Tu es celui qui donne, et tu l'as prouvé en nous donnant Jésus-Christ, ton Fils. Et nous te remercions pour ce don si précieux, ce don par lequel nous avons toutes choses en toi. Mais tu veux aussi qu'à notre tour, nous apprenions à donner, Seigneur, à nous détacher des choses, à te faire confiance, à expérimenter ta toute suffisance. Et je te prie que tu nous donnes des cœurs vraiment disposés, des cœurs généreux, Seigneur, des cœurs soucieux du besoin des autres que tu places aussi à côté de nous. Et Seigneur, donne-nous d'être modérés dans nos appétits, dans les choses que nous appelons souvent des besoins qui ne le sont pas. Et nous te prions que tu agisses profondément dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Nous savons que, Seigneur, notre rapport à l'argent est un indicateur aussi de notre état spirituel. Nous te prions que tu agisses dans nos cœurs pour la gloire de ton nom. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons manqué, où nous avons différé d'apporter nos offrandes, et que tu nous pardonnes, Seigneur, que tu nous aides par ton esprit à vivre d'une manière qui te plaise, et que nos dons, nos offrandes soient comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que tu acceptes et que tu agrées. Nous te prions ces choses en ton nom et pour ta seule gloire. Amen.